part avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes sont au menu de notre débat, à savoir, dans un mémorandum adressé au chef de l'État et publié lundi dernier à Kinshasa, la conférence épiscopale nationale du Congo s'est dit favorable au dialogue national comme voie royale et pacifique de sortie des crises. Journée internationale de la femme, c'est ce vendredi 8 mars 2013. Et cela constitue notre deuxième thème. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Ambroise Mamba, bonsoir.
Bonsoir Kéline, bonsoir également à tous les auditeurs de Radio Kaka.
Harold Bellarmé Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTGA, une télévision privée aussi qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Bellarmé.
Bonsoir Kéline, bonsoir chers compatriotes.
Et Baba Isaac Kalonji, le journaliste indépendant, il intervient depuis Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental. Bonsoir Baba Isaac.
Bonsoir ma chère.
Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous suivre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. La position de la Conférence épiscopale nationale du Congo au sujet du dialogue national comme voie royale et pacifique de sortie de la crise a fait la une des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Forum des As croit savoir que le mémorandum adressé au chef de l'État par les évêques membres de la CENCO par bien des points ne semblait pas très éloigné des différents cahiers des charges de l'opposition. A contrario, poursuit le confrère, le mémo des évêques met de l'eau au moulin d'une bonne partie de l'opposition pour qui les concertations à venir sont une espèce de CNS ou de dialogue intercongolais bis, c'est-à-dire un forum fondateur d'une autre légitimité. Pour le palmarès, favorable à des concertations, les évêques catholiques exigent le respect de la Constitution. La prospérité titrant sur ce sujet note que le paradoxe de l'extrême pauvreté du peuple congolais et les faramineuses ressources naturelles de la RDC inquiètent plus qu'ils ne rassurent. Les évêques catholiques, premiers serviteurs patentés de l'Éternel des armées, s'érigent eux en témoins de ce fossé dont ils dénoncent du reste certaines tares dans la gouvernance de la RDC, commente le quotidien. Sur un autre registre, la prospérité consacre sa une à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme et titre « Pas de défilé, 8 mars, la rupture. » Contrairement à la tradition qui s'est installée depuis quelques années en République démocratique du Congo, le gouvernement n'a pas prévu de défilé ni d'impression d'épargne au motif particulier pour célébrer la journée de la femme. Mais l'éditorialiste de Forum des As se demande si c'est un 8 mars pas comme les autres. Des scènes de réjouissance spontanées privées ne sont pas prohibées, rappelle le quotidien. Ainsi, le folklore qu'on aurait chassé par la porte rentrera par la fenêtre, comme par effraction, un peu à la manière du bon vieux principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se gagne, estime le journal. Parmi les autres sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine, on peut citer le crash lundi dernier d'un avion de la compagnie d'aviation CAA à Goma, au nord Kivu, le retrait le week-end passé des FRDC du Rutshuru, le rapport de l'ONG Greenpeace sur l'exploitation forestière illégale en RDC et la libération du journaliste Diana Gikupa, éditeur du journal La Colombe.
Merci Samuel Kachak pour cette revue des presse. Harold Bellarmé Badibanga. Je rappelle que vous êtes secrétaire de rédaction à la RTGA. C'est une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Un mot sous la revue de presse que nous venons de suivre. Parmi les autres sujets, il y a notamment le crash qui a eu lieu lundi dernier à Goma. Il y a aussi ce rapport des Greenpeace sur l'exploitation illégale du bois en RDC.
Alors, vous savez, la revue de presse est faite par un professionnel. Hein, et je comprends que c'était non seulement bien fait, mais ça a repris la quasi-totalité ou bien les matières intrinsèques de la semaine. Par rapport au crash d'avion qui a eu tout récemment dans l'est de la République démocratique du Congo, j'ai toujours dit que chose odieuse, l'interprétation est stricte, ce sont les Congolais qui ont péri et que l'heure n'est pas au débat, l'heure est plutôt à dénicher les causes de ces crashs à répétition, même si pour ce crash, on a ouï dire qu'il s'est agi d'un mauvais temps qui est à la base, mais je crois que il y a mille et une manières de prévenir en imposant la circulation des bons appareils, donc des appareils en bon état, pour que même en cas de mauvais vent, que des dispositions soient prises. Par rapport au rapport de Greenpeace, c'est un secret des polichinelles, c'est bien connu. J'ai toujours dit que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sont convoitées par l'impérialiste qui utilise mille et une manières pour faire main basse sur ces ressources naturelles. Et même les rapports qui sont faits émanent pour la plupart de ce même impérialiste qui veut se déculpabiliser de tout ce qui est fait sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour appauvrir encore le peuple congolais. Je crois que c'est au peuple congolais, pris une globo et gouvernement, d'ouvrir l'œil et le banc pour comprendre que le complot international dont le pays est victime doit être mis en échec.
Ambroise Mamba, vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet aussi depuis Kinshasa. Notre confrère Diana Gikoupa a été libérée provisoirement. Un mot par rapport à cette libération?
D'abord, je suis très content par rapport à cette libération, bien qu'elle provisoire. Diana Gikoupa, avait prévenu la société du danger qu'elle encourait, avait prévenu les dirigeants du danger qu'elle encourait par rapport à un hôpital de la place appartenant à un sujet chinois. Mais bon, il a été détenu en prison, ce qui est déplorable, mais enfin, on l'a libéré provisoirement. Et je ne peux que me réjouir, mais ici, je vais seulement demander qu'il y ait une certaine dépénalisation des délits de presse pour que le travail que nous faisions, qui est tellement noble, nous soyons sécurisés par rapport à ce travail. Mais ici, je voudrais peut-être déplorer le fait que Harold Badibanga a décliné la responsabilité de ceux qui gouvernent le pays en ce qui concerne l'exploitation illégale de ressources naturelles, notamment le bois. Le rapport de Greenpeace n'est pas le premier en cette matière. Quand on parle de l'impérialiste qui veut à tout prix exploiter nos ressources, c'est comme s'il n'y a pas un gestionnaire. Nous avons des dirigeants pleurnichards qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités pour qu'on puisse, si pas imposer l'autorité de l'État, mais le pouvoir ne puisse pas se plaindre, mais qu'il puisse s'exercer tout simplement.
Baba Isaac Kalonji, vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kassai-Oriental. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
Ma sœur, je suis très content que vous m'ayez posé cette question. La grande préoccupation chez nous ici présentement, c'est la carence d'eau potable, l'électricité, même quelque part, quelques foyers de tension et d'insécurité qui marque la vie de la population du Kassai oriental. Mais pour me référer aux amis qui ont précédé, qui ont parlé, je vous dis que la libération provisoire de notre confrère me réjouit. Mais je ne suis pas content depuis du fait qu'il soit libéré provisoirement, parce que les assassins courent les rues, quadrillent les quartiers, ils ne sont pas inquiétés. Et un journaliste qui est arrêté pour une information, alors que la loi prévoit un droit de réponse, alors que la loi peut juger le journaliste à partir du fait qu'il refuse de publier le droit de réponse, je suis peiné de constater que ni la justice chez nous n'est pas libre, elle agit toujours en fonction d'une composante à laquelle elle appartient. Et ensuite, concernant nos troupes qui étaient à Rutshuru, qui étaient à Mafisi, qui se sont repliées, j'ai dit que c'est une comédie.
Merci, Baba Isaac.
Je suis content de votre radio.
Merci Baba Isaac Kalonji, premier terme de ce soir. Les évêques de la RDC favorables au dialogue national, pourvu qu'elle affronte avec courage et sincérité les préoccupations vitales de la nation. Ses vœux est contenu dans un mémorandum adressé au chef de l'État et rendu public lundi dernier à Kinshasa. Tout en insistant sur le respect de l'ordre constitutionnel, les évêques disent non à la révision de la Constitution, surtout en son article 220, ayant trait à la forme de l'État et au mode des scrutins. Au micro de Mimi Ngumba, la Donatien Cholet, premier secrétaire général adjoint de la SENCO, revient sur l'essentiel du message des évêques de la RDC.
Les évêques réagissent à l'annonce faite par le chef de l'État le 15 décembre de l'initiative de renforcer la cohésion nationale et veulent par ce mémorandum apporter leur contribution pour cette initiative dont l'idéal serait que ça se passe dans le cadre d'un dialogue national. Les évêques ont commencé par décrire les préoccupations majeures au plan politique, au plan socio-économique, au plan sécuritaire. Au plan politique, ils ont, entre autres, relevé le malaise qui caractérise notre pays à partir de l'annonce des résultats. Alors, après ces préoccupations dénoncées, ils ont fait des propositions. Au plan politique, ils ont proposé le strict respect de l'ordre constitutionnel et particulièrement, ils ont insisté sur le strict respect de l'article 220 de notre Constitution, l'article verrouillé qui stipule, entre autres, que la durée de mandat du président de la République ne doit faire objet d'aucune modification. Et ils ont fait d'autres propositions aussi dans le sens des valeurs qui doivent caractériser le monde politique, les valeurs éthiques.
Ambroise Mambar, quelle analyse vous faites de la déclaration des évêques catholiques?
Bon, les évêques, j'estime par exemple qu'ils risquent d'être déçus parce qu'ils parlaient déjà du dialogue national, mais les concepts ont changé carrément. On parle actuellement des concertations politiques tout simplement. Ici, je déplore le fait qu'au niveau du pouvoir de Kinshasa, au niveau de la majorité présidentielle, on estime avoir le monopole de l'intelligence, le monopole de la pensée, ainsi de suite. On estime par exemple, non, les chefs de l'État, le 15 décembre 2011, décembre 2012, n'avaient pas parlé d'un dialogue. Il avait parlé des concertations politiques. Mais tout le monde avait entendu, tout le monde avait suivi les discours du chef. Il s'agissait ici de pouvoir réunir autour d'une table les forces vives de la nation. Mais aujourd'hui, on parle des concertations politiques.
Le chef de l'État lui-même n'a pas explicité ce qu'il entendait par concertation politique. C'est peut-être ça qui
crée
le flou.
J'ai suivi, il avait dit exactement ceci. Nous devons vivre désormais ensemble. Il y aura une action qui sera menée pour que nous puissions nous réunir et parler tous le même langage. Parce que ici, l'idée, c'était quoi? De conforter la cohésion nationale par rapport à la guerre, par rapport à l'agression dont nous sommes victimes. C'était ça l'idée, maîtresse. Mais aujourd'hui, lorsque vous voyez, avec le temps que cela a pris, on parle aujourd'hui des concertations politiques, le formant Obeminaku, c'est-à-dire quoi? Selon l'article 69, c'est les chefs de l'État, 69 de la Constitution, c'est les chefs de l'État, garant de la nation, et arbitre des bons fonctionnements des institutions, ainsi de suite, et qui devra convoquer, qui devra décider de l'endroit, du cadre, ainsi de suite, même des invités. Mais vous savez, quand ils sont partis dernièrement à Kingatakati, il y a eu des fuites des informations. On a eu l'information qu'on veut organiser des concertations politiques. Ça veut dire que ça va se limiter aux simples concertations. Obeminaku va recevoir des cahiers des charges de toutes les tendances politiques. Et le chef de l'État devra donner la réponse lors d'un congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis ensemble, pour qu'il donne les réponses à tous les cahiers des charges qui lui seront déposés. Et ce n'est pas ça, les dialogues. Ce n'est pas ça qui va donner la cohésion nationale vis-à-vis de l'agression. Parce que la cohésion nationale qu'on veut rechercher ici a vraiment un objectif à poursuivre, c'est pour que l'on puisse avoir un même langage vis-à-vis de l'extérieur, pour qu'on puisse faire face à la guerre. Mais lorsque les évêques en parlent, les évêques ont compris que seul le dialogue national va nous amener là où nous voulons pour avoir cette cohésion nationale.
Harold de Bellarmé, Badibanga, les évêques parlent de dialogue national pour sortir de la crise dans laquelle la RDC se trouve aujourd'hui. Une crise qui, selon les évêques, découle des élections de novembre 2011, alors que certains membres de la majorité estiment que ce dialogue ou les concertations dont parle le chef de l'État, c'est par rapport à la guerre qui sévit dans le Nord Kivu aujourd'hui.
Je veux tout simplement dire que dans cette affaire, il y a à manger et à boire dans la déclaration des princes de mon église. Mais je veux tout simplement dire ici que nous n'avons pas le droit, Kelly, de perdre nos auditeurs dans un polysémisme sans nom. Concertation, dialogue, tout ça. L'objectif, c'est quoi? Je renvoie ici à la notion qui dit que pour résoudre un problème, on peut dialoguer. Qui dit concertation renvoie au dialogue. Qui dit dialogue renvoie à l'interchangeabilité de la parole. Et donc, je ne veux pas que l'on fasse dire...
Et donc, il n'y a pas de différence entre dialogue et concertation.
Il n'y a que nuance, c'est-à-dire dans un cas tout comme dans un autre, il y aura dialogue, les gens vont échanger, à moins qu'on me dise que ce que Obeminaku n'a pas permis à ces différentes forces politiques de donner
pas leur point de vue, mais leur cahier des charges pour que l'on sache le jour J sur quoi on va échanger, quelle est la position de chaque plateforme. Là, je me rends compte qu'on est en train de forcer l'ouverture d'une porte ouverte. Dialogue, il y en aura, on va échanger. Sur quoi ? Sur une affaire bien connue.
Mais on a suivi le porte-parole du gouvernement qui a déclaré dernièrement qu'il n'y aurait pas de dialogue, il faut plutôt parler des concertations nationales.
Mais c'est dans cette optique que je me lance, je dis concertation et dialogue, on va échanger autour de quoi ? D'une question à l'est de la République démocratique du Congo. Je précise ici par rapport à la déclaration des princes de mon église, les évêques catholiques, membres de la CENCO, que ils n'ont fait qu'abonder dans le sens du bien-être de la République. Quand ils mettent en garde contre la révision de la Constitution, je me rends...
Surtout en son article 220.
Je me rends aussi compte que les princes de mon Église forcent l'ouverture d'une porte ouverte étant donné que la Constitution ayant été claire à ce sujet, du côté de la majorité ou du côté de l'autorité morale de la majorité qui est le président de la République, Joseph Kabila, on n'a jamais dit que ils vont modifier la Constitution. Qu'est-ce que les gens veulent? Donc, je pense qu'on ne peut pas vouloir perdre la population dans des considérations qui n'ont pas de sens par rapport à ce qui nous préoccupe. Les gens pensent qu'à entendre les évêques le dire, ils auraient eu vent de la volonté de la modification de la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Ici, je veux préciser une chose, et elle est très importante. Lorsqu'on dit la crise que nous avons est issue des élections de 2011, mais c'est n'importe quoi, Kelly. Il se pose un problème. J'ai toujours pris mon co-débatteur ici, Ambroise Mamba, témoin dans d'autres émissions similaires comme celle-ci. Les rébellions à répétition à l'est de la République démocratique du Congo n'ont pas commencé avec les élections de 2011.
Alors, il y a crise ou pas en RDC, Harold Bellarmine?
L'antagonisme entre les patriotes est normal étant donné que on ne peut pas vivre seulement dans un climat serein. Mais quant à dire que tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo est la corollaire des élections de 2011, c'est du raccordement frauduleux. Celui-là.
Merci Harold Bellarmine. Baba Isaac Kaloji, vous avez sûrement lu le rapport de la CENCO. Quelle lecture ou quelle analyse vous faites de cette déclaration des évêques catholiques?
Ma sœur, je suis très content que vous m'ayez posé cette question. Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que les gens n'ont pas examiné froidement le rapport de CENCO en rapport avec la situation qui prévaut dans le pays? D'une part, on veut se concerter, on veut dialoguer, on veut négocier, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'on négocie, qu'on dialogue. Alors, ce qui ne va pas là, il faut que le gouvernement le traduise correctement dans les faits, les gestes. Il faut que le gouvernement congolais s'assume.
Alors, on a perdu Baba Isaac Kaloji, la réalisation, on va essayer de le retrouver. Ambroise Mamba, une réaction par rapport à la révision de la Constitution. Pour Harold Badibanga, les évêques n'ont pas raison de mettre en garde concernant la révision de la Constitution.
Je voudrais rappeler, Harold Badibanga et moi sommes journalistes. Nous ne sommes pas des politiques, nous n'appartenons à aucun parti politique. Lorsqu'Harold dit par exemple que non, il n'en est pas question. Est-ce qu'il y a des gens qui y travaillent là-dessus? Il n'en est pas question. Je voudrais lui poser la question. Il appartient à quel parti? PPRD? Pour qu'il sache ce qui se passe, qui se trame au sein du PPRD? Pour qu'il sache ce qui se trame au sein de la majorité présidentielle? Pour qu'il sache ce qui se trame au niveau de la présidente de la République? Ici, les évêques catholiques, les prêtres de l'église catholique, ils entrent là où Harold Badibanga n'entrait pas. Il fallait peut-être que Badibanga dise, la Constitution a réglé la question. Pas question de réviser, de revoir le mandat de président de la République. Pas question. Et si les évêques l'ont dénoncé, Harold Badibanga ne pouvait que soutenir les évêques qui ont peut-être vu, qui ont peut-être entendu et qui ont peut-être trouvé des gens en train de travailler sur la révision constitutionnelle. Harold Badibanga ne peut que les soutenir. Mais quant à prendre position sans vérifier si les évêques catholiques ont vu des gens travailler sur la révision de la Constitution, c'est prendre une position politique dangereuse pour Harold Badibanga. Et ici, les évêques catholiques Moi, je ne vais pas ici nier qu'en 2000, lors de la mandature 2006-2011, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Ça créait un tollé sur le plan national qu'on a dû taire la question. Mais si on revient là-dessus aujourd'hui, les évêques ont entendu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seraient en train de travailler là-dessus pour faire sauter l'article 220, pour revoir le mandat du président de la République. Voilà pourquoi ils n'ont fait que tirer la sonnette d'alarme.
Une mise en garde des évêques.
Une mise en garde des évêques. Alors, quand on tire la sonnette d'alarme sur une question que la Constitution a déjà réglée, on ne peut que soutenir cela. Harold Badibanga pouvait dire, par exemple, que non. Oui, s'il y a des gens qui sont en train de travailler sur un projet machiavélique dans ce sens, qu'ils arrêtent. Parce que les princes de l'Église catholique ont entendu, ils ont suivi, qu'ils arrêtent tout simplement. Ça ne coûte rien. Badibanga ne perdrait rien en disant tout cela. Mais quand il prend une position politique comme ça, ce que lui est en train d'encourager, ce réseau qui serait en train de travailler dans le noir pour faire sauter l'article 220. Donc, ici, les évêques catholiques ont raison de pouvoir tirer la sonnette d'alarme par rapport à la question. Mais par rapport à la question du dialogue ici, Harold Badibanga nie ni le fait qu'il y a crise au pays. Il y a effectivement crise. La cohésion nationale, on la recherche à l'époque où il y a des divisions politiques. Voilà pourquoi le chef de l'État a besoin de cette cohésion nationale, qu'on parle le même langage. Alors, vous recherchez la cohésion nationale au moment où il y a crise, une controverse.
Une crise qui découle
des élections. La controverse perpétuelle sur les élections du 28 novembre 2011. Qui a été élu président de la République? Il y a une crise de légitimité de pouvoir. Et voilà la question qui devra être résolue.
Et la majorité ne semble pas être d'accord par rapport à dire que la crise découle des élections du 28 novembre.
Mais la majorité, je vais seulement lui rappeler une chose. Vous savez c'est à quoi nous a conduit le fameux groupe consultatif du Palais de la Nation, où on a invité des gens avec quelques têtes de l'opposition. Ça nous a conduit à quoi? Si ça a conduit à la cohésion nationale, on ne pouvait pas appeler à d'autres concertations, on ne pouvait pas appeler à notre dialogue. C'est tout simplement parce qu'on a réfléchi de cette manière-là. C'est simplement parce qu'on a réfléchi que non, il n'y a pas de crise. On doit éviter certaines têtes de l'opposition. Ici, il faudra qu'on puisse régler cette question avec beaucoup de responsabilité.
Alors, Harold Badibanga, les évêques parlent de dialogue comme porte de sortie des crises dans laquelle se trouve la RDC. Mais il y a un autre parti de l'opposition, l'Union des Républicains, qui revendique l'instauration d'une nouvelle transition en RDC.
Mais vous savez, il y a partis politiques et partis politiques dans ce pays. Qu'il y a des partis politiques de mallette qui n'ont comme membres que père et mère et enfants. Je ne veux pas me perdre dans des considérations venant des partis politiques, encore que pour preuve, pour étayer bien ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la crise en République démocratique du Congo, qui selon Ambroise Mamba et consorts serait venue des élections de 2011, pour prouver ce que j'ai dit, Étienne Tshisekedi lui-même a décliné le fait que son nom a été cité par le M23. Donc, la problématique pour laquelle la cohésion nationale est recherchée, c'est pas par rapport aux élections de 2011. Le problème que nous avons ici, pour lequel on doit échanger, c'est par rapport à l'est de la République démocratique du Congo et non par rapport aux élections de 2011. Devant les faits, on s'incline. J'invite Ambroise Mamba à s'incliner. Je précise aussi une chose. Je dis que l'intention des évêques, les princes de mon église, est bonne. La mauvaise chose, c'est l'interprétation dont Ambroise Mamba fait ici de cet appel des évêques, étant donné qu'il s'est évertué à me poser même des questions. Je lui dis qu'un bon journaliste, Émile Zola, l'appelle historien du présent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas penser que parce que je suis journaliste, je ne peux pas avoir à fouiller mes informations, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, pour savoir ce qui se trame là-bas. Il a donc une vision minimaliste de celui qu'on appelle un journaliste. Le dialogue, les échanges. Madame, dans ce pays, on a connu beaucoup de conciliabules. Dans ce pays, on a connu beaucoup de dialogues. Les évêques ont même dit au respect. Je suis content et je le retrouve. Ambroise Mamba loue l'initiative des évêques qui mettent en garde contre la révision de la Constitution en son article 220. Mais il ne persiste pas sur l'appel des évêques à ne pas toucher à la Constitution dans n'importe quel article par rapport à ce dialogue. C'est-à-dire, les évêques n'entendent pas aller dans un nouvel ordre politique en dehors de celui issu des élections de 2011. On peut dialoguer, mais le cadre légal qui nous régit, venant du souverain primaire depuis les élections de 2011, doit être établi et intouchable.
Mais ils n'ont pas rejeté ça, les évêques Harold Bellarmine ni Ambroise Mamba.
Non, mais vous savez, on dit tradere est traere. Quand on traduit mal, on amène toujours cette traduction dans ses intentions propres. Les évêques...
Là, c'est vous qui le dites.
Ah non, pas parler, mais Ambroise Mamba fait la bonne volonté ou la mauvaise de ne pas le relever. C'est une façon de dire tout simplement que nul n'est opposé aux échanges, au dialogue. Mais on ne peut dialoguer de manière efficace que quand on sait pourquoi on dialogue, comment on va dialoguer, pour aboutir à quoi. Ça doit être bien indiqué et bien
prescrit.
Merci.
Alors la réalisation me signale que Baba Isaac Kalonji est en ligne. Baba Isaac, vous m'entendez?
Oui, je vous suis très bien, ma sœur.
On a eu un petit problème avec les réseaux. Alors, je vous posais la question sur votre analyse par rapport au mémorandum des évêques catholiques adressé au chef de l'État.
C'est-à-dire que je suis d'avis que ce que les évêques ont fait est valable dans la mesure où, à défaut des armes, à défaut de la diplomatie agissante, la République démocratique du Congo ne peut recourir qu'à la négociation, au dialogue. Cela n'exclut pas que tous les Congolais se retrouvent autour d'une table pour échanger et trouver un modus vivendi qui peut conduire à la paix et à la cohésion nationale. Mais il y a un problème fondamental, ma sœur, c'est que on ne définit pas les contours du dialogue, c'est-à-dire quel sera le contenu du dialogue, quels sont les points prioritaires auxquels on doit faire allusion pour dialoguer. Et à quoi peut-on aboutir lorsqu'on termine les négociations? C'est là la grande difficulté des Congolais. On reprend les mêmes choses et toutes les fois et presque chaque mois. Le dialogue là, c'est autour de quoi? Est-ce qu'on parle légitimité? Est-ce qu'on parle crise politique? On parle crise économique ou crise sociale? Et ensuite, la situation de l'Est là-bas peut faire partie du dialogue aussi. On peut incorporer ce point dans le dialogue pour dire: comment faut-il mettre un terme à cette agression barbare dont le Congo est victime? Mais c'est pas un dialogue vague. C'est pas le fait, on ne va pas au dialogue avec un vainqueur et un vaincu. On va au dialogue pour trouver un compromis sur une situation qui concerne notre pays et notre peuple. Est-ce que nous pouvons incorporer un point concernant la rébellion de l'Est dans ce dialogue? Est-ce que nous pouvons parler de la crise de légitimité ou la crise issue des élections de 2011? Mais c'est comme ça qu'on dialogue. On ne peut pas tout simplement prétendre aller négocier et dialoguer sans obliger, sans sujet. C'est pas normal.
Baba Isaac Kalonji, déjà autour de ce dialogue ou concertation, ça dépend d'un camp ou de l'autre. Est-ce que vous pensez que ça aura lieu finalement?
Non, il peut avoir lieu au cas où les contours du dialogue sont définis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les objectifs assignés à la concertation face à toutes les composantes forces vives de la République, lorsque les contours sont définis, alors les gens peuvent s'engager à y aller. Mais quand vous ne définissez pas les contours de ce dialogue-là, quand vous ne donnez pas les objectifs à ce qui seront assignés à ce dialogue-là, mais beaucoup de gens vont bouder, ils n'y partiront pas. Il ne s'agit pas du partage du pouvoir. Mais qui dit, qui parle de partage du pouvoir à Kinshasa là-bas? Qui a dit qu'on doit partager le pouvoir? Mais qu'on définisse les contours du dialogue de sorte que ceux qui y participent soit fixé sur les modalités de participation et de l'apport de chacun d'eux quand ils vont se retrouver autour d'une table. C'est ce qui fait peur, parce que vous ne voulez pas qu'on parle du pouvoir, vous ne voulez pas qu'on parle de constitution, vous ne voulez pas qu'on parle des textes légaux qui régissent le pays. Mais alors, finalement, lâchez-vous là, vous voulez quoi?
Merci Baba Isaac Kalonji. Ambroise Mamba, c'est depuis le 31 décembre que le chef de l'État avait annoncé ses concertations nationales. Nous sommes au mois de mars aujourd'hui.
Avant d'abord le 31, il avait parlé le 15 décembre 2012, lorsqu'il a dit par exemple que non, ça va se faire en début du mois. En début de l'année 2013. Nous sommes déjà au mois de mars.
Il faut se poser des questions déjà.
Il a parlé également le 31 lors de son message à la nation. Il a également annoncé les dialogues, les forums nationaux. À l'époque, c'était là les forums nationaux en début de l'année 2013, ce qui n'arrive toujours pas. Et c'est ici que je voudrais me moquer un peu d'Harold Badibanga qui pense pour être un journaliste qui se tient informé, mais il n'a pas l'information. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé à Kingakati dernièrement? On a déjà arrêté un format. Concertation politique, tout simplement. Nous avons l'information. concertation politique tout simplement. Ça va se passer comment? Ça se passe comme Obeminakou le fait. Il requiert le cahier des charges de toutes les tendances politiques.
Ça a déjà commencé donc.
Ça a déjà commencé donc. Et il va transmettre ça à la présidente de la République. Et le chef de l'État va répondre maintenant à chaque cahier des charges lors du congrès, lors d'un congrès, Assemblée nationale et Sénat réunis ensemble. C'est ça, ce qu'on appelle concertation politique. Voilà le format qui a été arrêté à Kingakati. Est-ce qu'il est informé? Mais il fait des déclarations ici dangereuses pour dire non, ça va se tenir. Ça aura lieu, dialogue, concertation nationale. Non, mais ça, c'est dangereux, de la part d'un journaliste. C'est ici que moi, je voudrais dire, par exemple, que non, on doit dire à la population ce qu'elle en veut. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa veut passer outre la question de la légitimité de pouvoir pour obtenir la question nationale, la cohésion nationale, et qu'on ait une réponse? Il y a la question qui est réglée au niveau de l'accord cadre. On parle de la réconciliation nationale. La réconciliation nationale. Joseph Kabila a pris un nouvel engagement par rapport à la réconciliation nationale. Alors, lui qui veut obtenir la cohésion nationale, il a pris un nouvel engagement par rapport à la réconciliation nationale, mais la manière de procéder semble inquiéter, et je pense que c'est dangereux.
Alors, Harold, en un mot, vous qui semblez être dans les secrets de Dieu, on vient de suivre Ambroise Mamba qui nous confirme que les concertations ont déjà commencé. Vous avez aussi cette information?
Ambroise Mamba cesse d'être journaliste, il fait ici de la prophétie. Moi, je ne suis pas un prophète. Je vois les faits et c'est devant ces faits que je m'incline. Ambroise Mamba a oublié que les concertations dont question ici sont la corollaire même des consultations nationales jadis initiées par Joseph Kabila avec quelques têtes de la majorité et de l'opposition pour lesquelles, lui, ces consultations sont arrivées à un échec. Et l'échec, selon lui, ce sont les concertations que nous avons ici. Je veux tout simplement dire que le dialogue est un agent pacificateur des conflits interhumains. Nonobstant les méthodes, nonobstant la voix, du moment que les voix des uns et des autres sont entendues et prises en compte, c'est ça que l'on recherche. Alors je reviens sur le fait qu'il n'a pas droit à faire un raccordement frauduleux. Merci. Par rapport à la légitimité du pouvoir, tout ça. Le chef d'État était clair quand il a annoncé ça, c'était pour résoudre la problématique de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
Merci Bellarmé. Merci Bellarmé Badibanga. Célébration ce vendredi 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. C'est notre dernier thème en RDC. Le thème retenu pour cette journée est « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles en consolidant la paix et la justice en RDC ». Partant du thème choisi sur le plan mondial qui est « Une promesse est une promesse, il est temps de passer à l'action pour mettre fin à la violence faite à l'égard des femmes ». La représentante de l'ONU Femmes en RDC estime qu'il est temps de passer des paroles aux actes pour le bien de la femme. Françoise Nguenda Ayo, représentante de l'ONU Femmes en RDC, est au micro d'Honoré Missinga.
Il y a un mot qu'on a mis qui est très intéressant dans la thématique. Une promesse est une promesse. Il est temps de passer à l'action et mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Une promesse est une promesse. Ça signifie que c'est un clin d'œil. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de séminaires, beaucoup de fonds qui ont été consacrés pour la lutte. Maintenant, nous avons un devoir de redevabilité envers les victimes, envers les jeunes filles pour les protéger. Donc maintenant, ce ne sont plus des slogans, ce sont des devoirs. Nous avons des dettes.
Par rapport au thème mondial, quelle signification vous donnez dans le contexte de la République démocratique du Congo?
Il n'y a pas de contradiction parce qu'il y a beaucoup de violences pendant les guerres. Et je me dis que la solution pour arrêter les violences sexuelles pendant les conflits, la solution c'est l'arrêt des guerres.
Baba Isaac Kalonji, je rappelle que vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental. Vous êtes journaliste indépendant. C'est le 8 mars aujourd'hui, la journée internationale de la femme. Quel sens vous donnez à cette journée en RDC aujourd'hui?
J'ai, madame, deux préoccupations. La première, c'est que la femme doit apprendre à s'assumer d'abord en tant qu'être humain. Ensuite, il faut que les pouvoirs publics qui ont souscrit à la bataille de parité hommes-femmes, que ces pouvoirs publics s'impliquent aussi pour que la femme trouve sa place. Mais il y a un problème. Lorsqu'on parle de la violence faite à la femme, pour moi, c'est un slogan qui ne traduit rien dans les gestes et faits vécus au quotidien. La violence faite à la femme est faite par l'homme. L'homme qui est considéré comme membre de la société à part entière, qui commet les actes contre la femme, considérée comme faible sexe, mais la femme est intellectuellement à même de se défendre, de s'assumer, et même aujourd'hui, elles sont devenues des officiers supérieurs dans l'armée, dans la police, et dans tous les services de sécurité, mais que ce sont les femmes qui doivent s'assumer. C'est un père endogène concernant le sexe féminin qui doit se prendre en charge, qui doit s'assumer, avec le concours des pouvoirs publics qui ont souscrit au catéchisme universel, qui prône la parité homme-femme. Et en ce moment-là, on peut aller de l'avant. Mais cette fête-là, ici, laconiquement, elle n'a pas lieu. Je ne sais pas si elle va se tenir. Pas de défilé, pas de conférence.
C'était annoncé.
Rien du tout, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est la femme qui refuse d'affronter l'opinion pour aller se présenter et faire ses déclarations, ou c'est le pouvoir public qui refuse que la femme se présente? Ce sont des préoccupations que nous avons ici. J'ai des femmes de médias qui font leur travail, les femmes commerçantes aussi ont leur secteur de vie. Ils sont presque toutes, ne parlent pas de leur journée, alors que c'est une journée décrétée d'une manière internationale.
Merci.
Pour la défense des intérêts de la femme. Alors, je ne sais pas, peut-on seulement faire allusion à la violence qu'on fait à la femme, sans parler du rôle que la femme peut jouer en s'assumant elle-même?
Alors parlons, Baba Isaac Allongé, parlons du rôle de la femme. Prenons la situation que la RDC vit aujourd'hui dans sa partie est. Quel rôle la femme congolaise peut jouer dans la recherche et la consolidation de la paix en RDC aujourd'hui?
Pour l'est du pays, la femme est victime. Vraiment victime. Nous déplorons cette situation. Je suis d'avis que l'État congolais doit faire un effort supplémentaire pour protéger la femme de l'est du pays, mais je tiens compte des facteurs endogènes qui concourent en défaveur de la femme pour cette partie de la République. Je comprends aussi comment le problème est très complexe.
Merci.
Par rapport aux attaques. Ceux qui viennent pour soit harceler sexuellement les femmes, engager les mineurs comme militaires, poser les actes paradoxalement.
Merci Baba Isaac Kalongi. Merci Baba Isaac Kalongi. Ambroise Mamba, je rappelle que vous êtes journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. La célébration de la journée aujourd'hui est différente des années antérieures. Pas des défilés, pas des grands discours. Pourquoi, selon vous, le gouvernement a pris cette décision? Est-ce que c'est pour compatir avec les femmes de l'Est?
Bon, je m'imagine tout simplement que la ministre du Genre a pris une décision pour ne pas organiser des défilés par rapport au port du pagne nouveau. On a vu qu'elle a voulu rompre avec les habitudes du passé. On a vu que lors de la journée du 8 mars, il y avait un défilé qui était organisé et par la suite, ça s'est limité au port du pagne. La femme ne réfléchissait pas. À ce niveau-là, je ne peux que saluer cela parce que nous avons eu à déplorer les dégâts qu'il y a eu juste après le défilé. Ce que font les femmes, c'est vraiment déplorable. J'ai soutenu quand même cette décision. Mais là où je la soutiens pas, c'est elle n'a pas innové. Il y a eu rupture, mais pas innovation. Elle devait dire, en dehors du défilé, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que la femme peut réfléchir?
Quel est le programme? Mais il y a des ateliers qu'on a organisé, que le ministère du Genre a organisé, à gauche, à droite, pour les femmes.
Vous savez, la ministre vient ce matin, elle vient ce matin des États-Unis, elle a participé d'ailleurs ce matin même, dans une conférence à l'ISP Gombe, elle a fait un discours, moi je ne voudrais pas que ça se puisse limiter au niveau des discours, tout simplement, parce que même ça...
Il faut des actions concrètes,
oui, maintenant. Oui, effectivement, même celle qu'elle a précédée au ministère du Genre avait également organisé des conférences, des ateliers ainsi de suite, mais moi je voudrais qu'elle puisse beaucoup plus innover, pousser la femme à la réflexion, non seulement pousser la femme à la réflexion, mais également à prendre des décisions importantes par rapport au fait que la femme, on souhaite que la femme soit à égalité avec l'homme au sein des institutions ainsi de suite, mais comment cette femme devra s'y prendre, comment elle réfléchit, comment elle se bat ainsi de suite. C'est à ce niveau-là que moi je voudrais l'attendre, qu'il y ait un peu plus de résultats et un programme beaucoup plus concret. À ce niveau-là, je pense que ça va aller de l'avant. Mais quand on prend la décision, il y a des femmes qui sont mécontentes du fait que non, on n'a pas pu organiser ce défilé parce qu'il n'y a plus de pagne, ainsi de suite. Ce n'est pas ça le plus important. La journée ne peut pas se limiter à ce niveau. Pour la RDC, nous avons tout un mois. Le mois de mars est dédié à la femme. Et c'est là que je voudrais voir Geneviève Inago aussi, qui a été une ancienne journaliste, qui a travaillé comme nous, mais aujourd'hui qui est aux commandes du ministère, qu'elle fasse quelque chose de plus concret.
Harold Bellarmé Badibanga, secrétaire de rédaction à la RTG, à une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Quel rôle la femme congolaise peut-elle jouer aujourd'hui dans la recherche et la consolidation de la paix?
La femme congolaise doit créer une rupture avec le passé, c'est-à-dire demander les fonds pour soi-disant aider la femme victime des violences dues à la guerre imposée par l'impérialiste à l'est de la République démocratique du Congo. Et ces fonds prennent des destinations que l'on peut imaginer. Ce que la femme doit faire, c'est que toutes les ONG défense des droits des femmes aujourd'hui, au lieu de se limiter au blabla, doivent, ces ONG disais-je, aller au niveau international, là où l'aide et l'accompagnement de la femme victime et là où l'on prend des préventions contre ces violences se font à l'échelle internationale. Mais au niveau de la RDC, il faut quand même saluer d'ores et déjà que les genres sont en train de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, Kelly est journaliste à la radio Okapi. Elle n'a pas été engagée au nom de sa féminité, c'est au nom de sa compétence. C'est une occasion pour moi de faire un appel à la femme congolaise. Aujourd'hui, il ne suffit pas de se dire femme, mais il faut remplir être dans le critérium.
Mais il y a des femmes qui sont compétentes, mais malheureusement, elles sont étouffées par les hommes. On ne retrouve presque pas beaucoup de femmes dans les instances des prises de décision.
Les hommes qui ne sont pas genrés, oui, mais je peux me bomber la torse en te citant toi, en citant Mamie Namasengo, en citant Mufanko et Geneviève Inago aussi, Marianne Sita, pour dire que celles-là, elles ont su faire preuve de ce qu'elles sont. Et leurs époux sont comme moi, elles leur ont donné l'autorisation de travailler, étant donné qu'elles ont convaincu. Ici, moi, je me dis, Ambroise Mamba force l'ouverture d'une porte ouverte. Quand elle dit Inago aussi devait faire ça, elle doit le faire en un seul jour. Elle a tout un mois pour matérialiser ça et elle a mieux fait d'éviter les histoires qui ont toujours lieu au 8 mars. Je crois qu'il y aura des réflexions et des ateliers pendant tout ce mois pour redresser le niveau de la femme congolaise.
Merci Harold Bellarmé Badibanga, c'est la fin de cette émission. Merci à vous chers confrères d'avoir accepté cette invitation. Merci à Samuel Kachak qui est à la réalisation, à la technique, à Alain Goy. Au micro, Kéline Kouté, retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi.